Voilà. Voilà, bonsoir. Donc, le dernier cours, on a étudié les vêtements de l'âme. On va rappeler un petit peu, vraiment très brièvement, ce qu'on a étudié depuis le début du Tanya, pour essayer de faire le lien avec le cours d'aujourd'hui. Ah, tout d'abord, on a oublié de dire que ce cours est donc dédié pour le mérite, pour le srout de Raphaël Ben Yohanan Ve'ayala Cohen, qui avance d'un pas fervent dans la Torah et les mitzvot, et on lui souhaite de continuer ainsi. De plus, je sais qu'il prend très au sérieux Birkat HaKohanim, et c'est vraiment exceptionnel pour un petit Cohen de son âge. Et donc que Dieu le bénisse et lui donne la force et la santé d'avancer toujours à grands pas dans la Torah et les mitzvot.
Amen.
Aussi, ce cours est dédié à Yohanan ben Léa et Rivka bat Shaoul pour Bezrat Hashem, que Dieu leur donne cette année des enfants en bonne santé et qu'ils aient vraiment la réussite cette année, si Dieu
Amen.
Veut.
Amen.
Aussi pour la Rifoua chez les mains. Yohanan et Rivka, et aussi pour la Rifoua Shelema de Keren Bat Tzipora, qui a des petits ennuis de santé, et que vraiment que Dieu fasse qu'elle l'aide et qu'elle sorte très rapidement de ses problèmes, et qu'elle soit en bonne santé et qu'elle ait une vie douce et agréable dans la Torah et les mitzvot.
Amen.
Donc on a commencé par parler, quand on étudie le Tanya, on commence par la promesse qui est faite par chaque juif d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. De là, on a étudié les différentes catégories de juifs et on a été amené à comprendre qu'à l'intérieur même du corps d'un juif s'habille une neshama qui est divine, nefesh elokit, et une neshama qui est l'âme animale. Donc, un juif possède une âme divine et une âme animale. Chacune d'entre elles désire imposer sa volonté au corps. La neshama divine, l'âme divine, désire Dieu, désire s'attacher à Dieu, désire faire le mitzvot, prier, accomplir la volonté du Saint béni soit-il, alors que l'âme animale désire toujours des désirs, d'assouvir des désirs qui ne sont pas conformes à la volonté divine et puis qui sont toujours des désirs, on peut dire grossier, souvent, mais en fait surtout des désirs matériels. C'est là toute la différence entre les désirs de l'âme divine et les désirs de l'âme animale. L'âme divine désire des choses spirituelles, alors que l'âme animale désire le matériel. C'est-à-dire que même un morceau de musique, par exemple, c'est aussi matériel quelque part. Il y a aussi une certaine matérialité. Finalement, il y a une différence entre un morceau de musique comme un nigoun chabad, que ça c'est vraiment quelque chose de très beau, et quelque chose qui fait du bien à l'âme, qui purifie l'âme, comparativement à un morceau de musique qui est dépourvu totalement de sainteté. L'âme animale va chercher à assouvir ses désirs, comme ça d'entendre des sons, des choses matérielles. Chaque fois, elle désire attraper les choses, avoir un... Elle est dérangée par le spirituel. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'assouvir des désirs comme manger, boire, dormir. Donc on a étudié l'âme divine, on a dit qu'elle échappait à toute définition, puisque c'est l'âme, tout ce qu'on peut dire de l'âme, c'est qu'elle donne la vie au corps, mais on ne peut absolument pas la cadrer, l'enfermer dans un théorème ou dans une définition, justement du fait qu'elle est divine. Toujours est-il qu'elle provient du souffle d'Hachem, de Dieu, et... Ça, on doit comprendre par là qu'elles proviennent de l'intériorité. Elles proviennent d'un niveau très élevé, puisqu'elles proviennent de l'intérieur même de Dieu. Comme on dit que quand Dieu il a insufflé l'âme, l'âme elle provient du souffle intérieur. Et on a étudié qu'il y a une différence entre un souffle intérieur et le fait de parler, qui est un souffle qui est beaucoup plus superficiel. L'âme d'un juif provient de l'intériorité de Dieu. alors que toutes les autres créatures de tous les mondes proviennent de la parole de Dieu. On voit qu'il y a une différence. Donc vous voyez déjà, on peut apprendre déjà de là qu'il y a une différence entre la pensée et la parole. On voit que la pensée, quelque chose d'intérieur, et c'est l'attribut, disons, le plus élevé chez l'homme. Et on voit que l'âme même divine d'un juif provient de l'intériorité de Dieu. L'âme divine se compose de 10 forces, les 3 forces de l'intellect et les 7 émotions. Chabad, Chochma Binadat, compose la partie supérieure de l'âme divine, puisque ce sont les 3 forces de l'intellect. On a vu que l'éclair de compréhension, c'est Chochma. Bina correspond déjà à l'étude en détail, alors que Da'at correspond à la connaissance vraiment ressentie d'une chose. C'est-à-dire quand l'homme comprend et ressent profondément une chose. Pour expliquer la différence entre Chochma, Bina et Da'at, l'Admor Ibn Sa'id, dans son ouvrage, l'Admor Ibn Sa'id, c'est le fils de l'Admor Zaken, dans son ouvrage qui s'appelle Sha'are Ora, il explique, il illustre la définition de Chabad par l'exemple le plan d'un architecte, le plan d'un palais. Il explique, il dit que tout d'abord, quand l'architecte il a d'abord une idée de concevoir un palais, ça se résume en une petite esquisse comme ça, un petit dessin, une ébauche rapide, qui à l'intérieur de cette ébauche est contenu le plan du définitif du palais dans un aspect très formel et très, disons, résumé, très synthétique. Et ensuite, l'architecte, ce qu'il fait, il va dégrossir à partir de ce plan-là, il va établir des plans, des coupes et des façades, où il va pénétrer à l'intérieur du bâtiment, où il va montrer l'aspect vu de haut, vu de dessus, vu de dessous même. On voit qu'en architecture, il y a des axonométries, ce sont des plans d'un bâtiment qui montrent la perspective et la profondeur du bâtiment. Des fois, on fait une axonométrie vue de dessous et on voit des choses qu'on ne peut pas voir autrement. Et donc, l'architecte, il va proposer comme ça, tout au cours de son étude, il va donner des plans successifs. Et ensuite, quand il parvient au résultat final, il établit une maquette. Ça, je ne pense pas que l'Amensei ne parle pas de maquette. Ça, c'est moi qui l'introduis ici. Mais où le projet définitif, où on voit en fait à quoi ressemblera le palais en question. Ces 3 étapes-là nous donnent à comprendre ce que signifie Chochma, Bina et Da'at. Puisque Chochma, au départ, c'est le noyau, c'est l'ébauche première, la compréhension dans l'esprit, de façon très, très formelle et très, très en un point, comme ça, puisqu'on dit que la Chochma, c'est un noyau qui contient tous les éléments. Ensuite, vous avez la succession de plans, des descriptifs, des façades, de l'intérieur du bâtiment, les détails, tous les détails, chaque l'accès au bâtiment, chaque pièce, tout ce qui est relatif au descriptif même du bâtiment, ça correspond à la Bina. C'est l'analyse, quand une personne raisonne, l'analyse. Et ensuite, Da'at, on peut dire que c'est la maquette, quand on voit le bâtiment en lui-même qui est terminé, qui est devant nos yeux. Ces forces, on a vu ça, le dernier cours, ne peuvent être vécues, disons, si on peut dire, ne peuvent être comprises par l'homme que par l'intermédiaire des vêtements. C'est-à-dire que l'âme a besoin de vêtements pour s'exprimer. On a vu que les vêtements de l'âme divine sont la pensée, la parole et l'action. Pourquoi on parle de vêtements? Parce que quelque part, si vous regardez aussi, il y a plusieurs raisons, mais le vêtement, il épouse la forme du corps, quelque part. Il recouvre le corps. Mais il habille le corps, et le corps est à l'intérieur, mais il épouse le corps. Donc on voit qu'il est conforme au corps. On voit pareil, on voit à peu près la même chose en ce qui concerne les vêtements de l'âme, c'est que par la parole, l'âme peut s'exprimer. C'est comme si, quand par exemple l'âme s'habille dans la parole, elle trouve un vêtement apte à exprimer vraiment ce qui auparavant était interne à l'intérieur de l'homme. Pour qu'il exprime à l'extérieur, il a besoin d'un vêtement, c'est le vêtement de la parole. Et c'est la même chose en ce qui concerne la pensée, puisqu'on voit qu'une pensée, elle va s'habiller dans les lettres de la pensée. On sait que la Noura Zaken va nous l'expliquer, Bezrat Hashem, au cours du Tanya, que les lettres de la parole, c'est une chose, mais il y a aussi les lettres de la pensée. C'est-à-dire que la pensée ne s'exprime pas de façon abstraite dans le cerveau, mais au moyen de lettres. Les lettres de la pensée. Donc c'est pour ça qu'on dit que même les lettres elles-mêmes sont des kélim, des récipients, qui contiennent à l'intérieur d'eux-mêmes une lumière. En l'occurrence, ici, c'est la pensée, un concept, va s'habiller dans les lettres de la pensée. C'est-à-dire que c'est par les lettres qu'elles vont pouvoir exister véritablement, passer de l'état de l'abstrait à l'état plus concret. Donc, l'âme divine a besoin de ces trois vêtements, la pensée, la parole et l'action. Et on avait expliqué que, par exemple, le jour de Kippour, un juif doit avoir des vêtements propres, c'est-à-dire qu'un juif doit chercher toujours à purifier ses vêtements, les vêtements de l'âme. C'est-à-dire à toujours avoir à parler de belles façons, à penser aussi de belles façons et à faire aussi de grandes choses. Dans à la fin du chapitre, puisqu'on était à la fin du chapitre, on n'a pas dit, et ça, bon, je profite de l'occasion pour dire qu'en fait, la Noura Zaken dit que une heure de mitzvot et d'étude de la Torah, de bonnes actions dans ce monde, valent plus que toute la vie dans le monde futur. Et en fait, il faut comprendre par là que quand les âmes quittent le corps, que Dieu nous en préserve, et puis ils arrivent dans le Olam Haba, dans le monde futur, dans le Gan Eden, pardon, elles vont voir comme salaire, elles vont recevoir un salaire de toutes les actions qu'elles ont accomplies dans ce monde, et elles vont recevoir un ziv ashrina, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir un reflet de la lumière divine, va leur être donné. Elles vont jouir de ce reflet de lumière pendant leur séjour dans le Gan Eden. À côté de cela, la Noura Zaken nous dit que quand un juif fait une mitzvah, ici, c'est pas un reflet de la lumière divine dont il profite, mais c'est de Dieu lui-même dont il va profiter. Il va attraper Dieu, entre guillemets. Et c'est certain que la volonté de Dieu, comme on l'a dit au dernier cours, elle va descendre de monde en monde jusqu'à s'habiller dans des choses matérielles. C'est-à-dire qu'on accomplit les mitzvot par la matière du monde, au moyen de la matière du monde. Comme on le voit, par exemple, les quatre espèces. Au moment de Soukhot, on fait la volonté de Dieu, on a besoin d'un loulav, d'un étrog, on a besoin de choses matérielles. Et donc, vous voyez, on voit que la volonté de Dieu descend pour s'habiller dans la matière du monde. Et au moyen de la matière, on peut faire des mitzvot. Alors, la Noura Zaken nous dit... Alors on pourrait penser, comment tu me dis qu'on peut attraper Dieu, on peut saisir Dieu vraiment lui-même? Alors il donne l'exemple d'un roi. Si un roi est habillé d'un vêtement, ou de deux vêtements, ou de trois vêtements, l'un par-dessus l'autre, peu importe, il dit, si vous enlacez le roi, et le roi vous enlace, même si son corps est entouré de plusieurs vêtements, à l'intérieur de ces vêtements, c'est le corps du roi qui se trouve. Donc vous embrassez vraiment, vous enlacez le roi lui-même. C'est un exemple pour nous faire comprendre que même si les mitzvot descendent, sont dans la matière du monde, c'est-à-dire que la volonté de Dieu se trouve dans la matière du monde, quand on fait la mitzvah, on accomplit la volonté de Dieu, même si c'est derrière un vêtement matériel, derrière ce vêtement matériel se trouve vraiment le roi lui-même. Donc, la Noura Zaken, il insiste sur ce point, et c'est un point mais vraiment qui est fondamental, et que chaque juif il doit vraiment avoir conscience de cela tous les jours de sa vie. D'abord, savoir que le fait d'être juif, c'est la chose la plus grandiose qui lui est donnée de vivre, puisque c'est vraiment un fils du roi, et qu'il doit être rempli d'une joie, mais vraiment, il doit être uniquement, du fait d'être juif, être hurlé de joie à chaque instant de sa vie, même s'il ne hurle pas physiquement, mais au moins ressentir à l'intérieur de lui-même la chance qui lui est donnée d'être fils du roi et de pouvoir accomplir la volonté du roi des rois. Et en plus de cela, le fait d'être le fils du roi, c'est pas suffisant. Quelque part, ce qui est l'intérêt, c'est d'être un fils digne du roi. Et quand est-ce qu'il atteint cette dignité? Quand il accomplit la volonté de Dieu. Alors il doit avoir conscience, c'est ça le point qui nous est donné à comprendre, que quand il accomplit la volonté de Dieu, c'est comme si il enlaçait le roi à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que vraiment, il saisissait Dieu. Et que Dieu le saisit aussi à ce moment-là. Il y a une union entre lui et Dieu qui se fait au moment où un juif, il accomplit une mitzvah, et en particulier quand il étudie la Torah. C'est donc le début, au début du chapitre, de ce chapitre, du cinquième chapitre du Tanya, qui va expliquer cela. Où le Tosefot Beor Beretev, les chants fils à Shamar Eliaou, Leit Marshavat fils à Bar, Vechoulé. Il dit pour comprendre davantage ce point qu'on vient de dire, cette union qui existe entre Dieu et son fils, il dit ajoutons quelques explications à l'expression de Tfissa. Qu'est-ce que ça signifie Tfissa dans les paroles d'Eliaou Hanavi, quand il a dit nulle pensée ne peut t'appréhender. T'appréhender, Tfissa. הנה, כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו, איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל, והשיגו והשכילו. Tout intellect, lorsqu'il conçoit et comprend un concept au moyen de son intelligence, il assimile et domine le sujet. Grâce à son intelligence. Et le concept, à son tour, est saisi. Il est, en quelque sorte, possédé, le concept, par l'intellect. Il est revêtu par l'intellect, qu'il a conçu et compris. Je veux dire ainsi, quand on réfléchit à une chose, la chose, le sujet auquel on réfléchit, l'intellect va carrément, comme, si on peut dire, comme un lion qui va attraper une proie, ou comme une main qui saisit un objet, l'intellect il va se saisir de la chose étudiée, il va l'entourer, il va le comprendre, il va le cerner, il va le dominer. Évidemment, il y a une étape pendant laquelle le sechel il est en difficulté, où il ne comprend pas la chose. À ce moment-là, c'est le contraire. La chose qu'il est en train d'étudier va dominer l'intellect. Alors le rabbi, tel qu'il exprime ici dans ses mots, le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, il explique les choses ainsi. Il explique le Tanya de cette façon. Il nous dit voilà ce que ça signifie. Parce qu'il écrit par la suite Vegam Asechel, Melubash Bamuskal, Beshaash et Masigo, Vetofso, Besichlo. Il dit que même le Sechel, lui-même, il est habillé par la chose qu'il est en train d'étudier. Derer Machal, ensuite on va donner un exemple. Le rabbi il explique les choses ainsi, il nous dit comme ça. Il y a trois étapes dans la compréhension. La première étape, c'est l'approche générale. C'est-à-dire que le Sechel, il va réfléchir à une chose, mais c'est une approche générale, comme ça dans son ensemble. Il ne rentre pas dans les détails. À ce moment-là, on peut dire que la chose qu'il étudie, elle est cernée par l'intellect. Il la cerne, il la comprend. Il ne la comprend pas dans tous les détails, mais il arrive à la cerner. Puis, quand il vraiment il investit son temps, son esprit, et commence à étudier avec ferveur, à ce moment-là, la chose qu'il est en train d'étudier, elle-même va envelopper son intellect. Il est pris par la chose, ça signifie. Son intellect, il est absorbé par la chose qu'il est en train d'étudier. Comme on voit par exemple, quand quelqu'un est plongé dans une chose, on dit il est dans la chose. Il est dans le sujet, il est dans la matière qu'il est en train d'approfondir, d'étudier. À ce moment-là, on voit que c'est la chose qui enveloppe l'intellect. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que l'intellect il est absorbé par la chose qu'il est en train d'étudier? Pour nous dire que quelque part, il ne peut pas faire autre chose. Son esprit, il est occupé à cette chose-là, donc on voit que la chose domine son intellect. Ça, c'est quand il approche en détail, quand il réfléchit dans tous les détails. Une approche détaillée d'un sujet. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, quand il a compris, il est allé, il s'est battu, il a compris, il a réussi à terminer, à donner un terme à sa réflexion, à ce moment-là, la chose, il la cerne complètement. C'est lui qui domine la chose, et pas la chose qui le domine. Vous voyez ces trois étapes? Ce sont les trois étapes qui sont décrites ici par la Noor HaZaken, qui nous donne un exemple, pour nous expliquer et nous amener à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah. Vous voyez, là, il nous a donné un exemple sur que ça peut être n'importe quelle science qu'on est en train d'étudier. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne quand l'homme il étudie la Torah.
C'est quand même rude, alors c'est âpre, hein, l'étude. Hein, de l'homme ne prend pas quand même. Hein. C'est pas quelque chose de.
L'étude de la Torah.
Quand on voit les trois approches.
Oui, c'est un combat. Oui, c'est un véritable combat. D'ailleurs, il expliquait. Il expliquait dans le Tania par la suite que le devoir d'un juif, c'est pas d'étudier la Torah selon son désir, tel que ça lui convient. Il dit quand est-ce que ça devient vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le Rav Zinovitch lors de la soirée de Yud Shvat. Il a parlé de quelque chose d'essentiel. Dans la vie d'un chassid, dire qu'un chassid, c'est quelqu'un vraiment qui se dépasse. Et la Noor HaZaken, en fait, parle de ça dans le 30e chapitre, je pense, du Tanya, ou le 31, un des deux. Il nous dit que c'est pas. Quand est-ce que vraiment ça devient intéressant d'étudier la Torah pour l'homme? C'est quand il dépasse de loin ce qui lui convient à lui de faire. Il sait étudier 2 heures par jour. Il sait le faire, ça ne le dérange pas, il y arrive très bien, sans aucun problème. Il arrive à étudier 2 heures par jour. Il dit, c'est pas ça, étudier la Torah, dans ton cas. Ah, tu arrives à étudier 2 heures, alors il faut que tu dises 5 heures, alors. Dès que ça commence à déranger son âme animale, qui préfère le voir s'occuper de sieste, ou de repas, ou de... Dès que son âme animale, elle est en... dérangé et qu'il lutte à ce moment-là contre son âme animale, son étude elle est valable à ce moment-là. C'est là que vraiment que. Donc, bien sûr, déjà l'étude elle-même, c'est déjà, comme vous dites, c'est un combat, mais aussi l'étude, je parle au niveau quantitatif, aussi c'est un combat. À tous les niveaux, ça doit être vécu comme un combat. Et au niveau qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire que celui qui est capable de comprendre jusqu'à un certain niveau, il doit lui-même, pour être valable, il doit lui-même essayer de comprendre des niveaux plus supérieurs. Et également dans le temps. Donc c'est infini, c'est sans fin. Parce que je peux vous dire que j'ai déjà rencontré un Talmid Raham, mais vraiment un vrai Talmid Raham, quelqu'un qui est reconnu comme un Talmid Raham. Et lui-même, il se considère vraiment comme rien du tout. Il dira d'ailleurs, s'il se considérait comme quelque chose, on aurait du mal à croire que c'est un Talmid Raham, parce que la Torah qui est elle-même infinie, quelle prétention un homme peut avoir de dire qu'il connaît quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut connaître par rapport à l'infini? Une goutte par rapport à l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Donc vraiment, c'est un dur combat que le juif il doit mener toute sa vie. Mais il y a des hommes quand même comme la Noor HaZaken qui ont montré jusqu'où on pouvait aller. Ils sont allés très très loin comme ça, il y en a.
Mais il y a un bonheur dans ce combat. C'est ça la différence dans la Torah. C'est que le combat apporte ce bonheur.
C'est un bonheur en plus qui est vécu à chaque instant de l'étude. C'est pas un bonheur qui est comme ça, qui va arriver. C'est à partir du moment où l'homme décide d'étudier la Torah, au moment où il étudie, c'est un bonheur qui commence.
Le bonheur, c'est ça d'ailleurs, peut-être.
Oui, c'est le.
Pas d'autre bonheur que celui-là, alors.
Non, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi, parce qu'en fait, il nous dit que l'homme, il s'unit à Dieu à ce moment-là. Il y a une feuille blanche dans la poche de mon manteau, si tu peux me la donner. Il va nous expliquer, on va comprendre pourquoi c'est un véritable bonheur. On va le comprendre. On le comprend dans l'étude elle-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand un juif, il étudie la Torah? Il nous dit, derer machal, par exemple, que chez Adam et Vin ou Massi, quand un homme, il comprend, il perçoit clairement, Eize alacha une alacha, ba Mishnah ou ba Gemara, la Ashura al Buria, are sirlo tofes ou makif ota, vegam sirlo melubash ba otasha. Dit lorsqu'un homme, il perçoit et comprend clairement et profondément une loi qui est énoncée par la Mishnah ou par la Gemara, son intellect, il va la saisir, il va la dominer, comme on a dit, et simultanément, il est revêtu en elle. L'intellect, il va se revêtir en elle, c'est-à-dire que la Torah qu'il est en train d'apprendre va envelopper son intellect aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fusion qui se fait entre l'esprit et la chose étudiée.
Est-ce que, justement, cette fusion qui se fait entre l'esprit et la chose étudiée, est-ce que c'est ça les avis, les fardalotes, dans les autres domaines, la science, tout ça?
Tout ce qu'on peut étudier, ce qu'on a vu. C'est ce qui se passe. On a vu que d'abord l'intellect. Oui, il y a aussi ce processus. Seulement, toute la différence, elle est ici. C'est que, bon, quelqu'un, il étudie des problèmes mathématiques, il va penser à des chiffres, il va même rêver à des chiffres. Mais quand les chiffres, ils vont envelopper son intellect, ce ne sont que des chiffres. Alors que qu'est-ce qu'on a étudié? Un point qu'on a parlé, la Torah et Dieu font un, ne font qu'un. Ça signifie que quand il étudie des choses de la Torah, comme la Mishnah, la Gemara, il dit qu'est-ce qui va envelopper son esprit? C'est Dieu lui-même qui va entourer son âme. C'est ça l'union dont il est question ici. C'est-à-dire que ce ne sont pas des chiffres, c'est Dieu lui-même. Son esprit est dans la Torah, et la Torah pénètre dans son âme. C'est ça toute la différence. C'est pour ça que on peut comprendre à partir de là, quand on raconte des histoires, comme souvent quand on raconte des histoires qu'on voit même les gens qui sont les gens de Torah, on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas animés de la même. Ils n'ont pas le même regard, ils n'ont pas la même démarche, ils n'ont pas les mêmes comportements. Pourquoi? Parce que la Torah pénètre à l'intérieur de leur âme. Et ça, c'est Dieu qui pénètre à l'intérieur de leur âme. C'est-à-dire que ça devient vraiment des enfants de Dieu, vraiment.
On ne sort pas indemne de l'étude de la Torah. C'est ça. Il y a un phénomène de transformation,
Ben oui, elle change l'homme. Elle purifie l'homme au point que l'homme y parvient vraiment à ce que Dieu attend.
C'est Rabbi Hayatz qui dit que tu dois Torah modifier les cellules du cerveau.
Oui. Le fait d'étudier la Torah, le Rabbi Hayatz explique que le cerveau lui-même, sa matière change. La Torah, mais en fait, c'est ce que j'ai dit la dernière fois quand je vous disais que les portes du Aaron à Kodesh sont deux portes sur l'infini, parce qu'à l'intérieur il y a un Sefer Torah, et que le Sefer Torah il contient la parole de Dieu. Le point qui nous a été vraiment donné, l'essentiel du dernier cours, c'est de dire que dans les lettres, ces lettres-là, c'est la matière, c'est matériel. Dans ces lettres-là, il y a, la pensée et la sagesse de Dieu, divine. Ce qui est divin, ça échappe complètement à l'homme. Mais on doit comprendre par là que le divin, il va sculpter, les lettres de la Torah, elles vont sculpter dans l'esprit de l'homme, elles vont graver dans le cœur de l'homme. Le rabbi, des fois, dans des Mahamarim chassidiques, le rabbi, il parle, il dit que la Torah, elle va graver dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu, elle va se graver dans son cœur. C'est le but, d'ailleurs. C'est graver dans son âme et graver dans son cœur la parole de Dieu. Un juif, il a tous les récipients pour ça. Il a toutes les matières, tous les kélim pour parvenir à ça. Pour être lui-même, devenir lui-même, chélek elokam imal mamash. C'est-à-dire que pas seulement son âme, c'est une partie de divinité, mais même parvenir même à ce que son corps, ça devienne une partie de divin. Parce qu'il a accédé à la pureté. Il y a quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme, c'est les 10 paroles, les 10 commandements. Le Sadia Agaon, un grand de la Torah, il a expliqué que quand Dieu a prononcé les 10 Mahamarim pour créer les mondes, Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz, tout le commencement de la Torah, au moment où il prononce les 10 paroles, 10 Mahamarim, il crée la matière physique du monde. Il crée ce monde matériel dans lequel on vit. Les arbres, les plantes, les animaux, l'homme, la pierre, l'inanimé, le tsoméar, le végétal, tout, il crée tout par les 10 Mahamarim. Mais en même temps qu'il dit les 10 paroles qui créent le monde, il dit aussi les 10 commandements. Et les 10 commandements, en fait, constituent l'âme de ce monde. On voit qu'en toute chose, il y a un corps et il y a une âme. Chez l'homme, on voit qu'il y a le corps et son âme. L'univers entier, c'est un grand corps. Et l'âme qui remplit ce grand corps, c'est la parole de Dieu, les 10 commandements. Quelle est la première parole, 10 commandements? C'est Anochi. Anochi. Anochi, c'est expliqué dans la Gemara Shabbat, 4 lettres. Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ani, je. Hachem qui dit je suis. Je suis l'éternel ton Dieu. Anochi. C'est le premier des 10 commandements. Il expliquait dans la Gemara Shabbat, je pense que c'est à la page 105, il expliquait que ce sont les rachetevot de Anna, Nafshi, Ktivat et Avit. Anochi. Les premières lettres, Anna, Aleph, Nafshi, mon âme, Ktivat, j'ai écrit, et Avit, j'ai donné. C'est-à-dire que le sens littéral, ça signifie, moi, c'est mon âme, c'est moi qui écris, c'est moi qui ai donné la Torah. Les deux grands commentateurs de la Torah, ils vont vous expliquer le sens, le pshat. Le pshat, le sens simple, c'est quoi? Rashi, qui va nous dire, et le Maharsha, ils vont nous dire, le Maharsha, c'est le... On est allé visiter sa tombe en Ukraine, cette année, une synagogue en ruine, comme ça, le Maharsha, c'est un grand commentateur. On a visité comme ça la synagogue, où un magnifique bâtiment, comme ça, où il ne reste que les murs, comme ça. Et comme ça, il n'y a plus rien. Il ne reste que des murs, mais des murs avec des voûtes, avec des colonnes, avec des bâtiments vraiment spécial. Il se trouve en Ukraine, donc. C'était la synagogue où il était. Et le Maharsha a dit que, comme Rashi, il nous a dit que ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui a donné la Torah. C'est moi, c'est Dieu qui l'a donné. C'est ça que ça signifie Anochi. Maintenant, la Chassidut, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que Anochi, ça signifie j'ai mis mon âme dans la Torah. C'est Dieu qui dit ça. C'est dans la Morazaken qui explique ça, dans le Likutei Torah, la page 45. Il nous dit il nous dit que, Chassidut, et d'ailleurs c'est expliqué et c'est repris par le rabbi souvent, que Anochi, ça signifie que Dieu a mis son âme dans la Torah. Ça signifie quoi par rapport à ce qu'on est en train de dire? Ça signifie que quand un juif il étudie la Torah, c'est l'âme de Dieu qui l'enveloppe à ce moment-là, qui pénètre dans son âme. C'est-à-dire que son âme, elle va saisir la volonté de Dieu à travers ce qu'il est en train de nous dire ici, la Gemara ou la Mishnah, c'est la volonté de Dieu. Mais en plus de ça, Dieu lui-même va pénétrer dans son âme. Évidemment, on parle de celui qui étudie profondément. Même celui qui n'étudie pas profondément, en fait. Enfin, j'ai dit une bêtise, parce qu'en fait, même celui qui n'étudie pas profondément, il y a une fusion qui se produit entre son âme et la sagesse divine.
Oui, en fait, peu importe bien sûr le niveau le potentiel de l'individu, s'il a la kavana, hein,
oui.
s'il est prêt à faire cette étude-là, peu importe son niveau, le processus met en marche.
Mmh. Hein. Oui. Par contre, oui, c'est ça. Mais là, il va nous dire qu'il y a une différence entre. On va voir que c'est propre à l'étude et on va voir que c'est quelque chose qui n'est que propre à l'étude, en fait. On va voir que les mitzvot, c'est pas la même chose. Veine alachazo, quand on parle de halacha, on a dit que quand il étudie, lorsqu'un homme y perçoit et comprend clairement et profondément une loi qui est énoncée par la Mishnah ou la Gemara, son intellect va saisir, il va dominer et simultanément est revêtu en elle. Son intellect va être revêtu dans la chose qu'il est en train d'étudier. C'est-à-dire que son intellect est absorbé par le sujet qu'il est en train d'étudier. Il dit, mais alors cette loi, c'est la Veine alachazo. La loi qu'il est en train d'étudier, c'est quoi en fait? C'est la sagesse et la volonté de Dieu. Chez Allah Birsono, chez Keshe, it's on Reuven, kar vekar, derer machal, vishimon kar vekar, i apsak benehem, kar vekar. Car lorsqu'il voulut que Reuven, par exemple, il développe une telle argumentation, et Shimon, telle autre argumentation, le verdict qui va les départager, il soit rendu de telle manière. Donc on voit que quand on étudie une halakha, on va finir par déboucher un psak din, et en fait ce psak din, ça correspond à la volonté de Dieu, ce qu'il veut dans ce cas-là, c'est ça. Et tu dis, ve'af im lo haya velo iya davar haze leolam, même si un tel litige ne s'est jamais présenté, le Mishpat, en justice, al te'anot ut vi'ot elu, mikol makom, me'achar shekach ala virtsono v'chokhmato shel HaKadosh Baruch Hu, sheim iton zekar v'zekar, yapsakar, le dit ça comme ça, c'est-à-dire, même si c'est en étudiant une loi, un cas qui ne s'est jamais présenté devant un tribunal, et qui ne se présentera jamais, simplement une probabilité de cas. Il dit, malgré tout, c'est la volonté et la sagesse de Dieu. Ils ont tranché que lorsqu'une partie avance un argument et l'autre partie avance un autre argument différent, la décision finale doit être ainsi. C'est-à-dire que même dans des cas qui n'ont pas eu un écho dans la vie, malgré tout, on étudie ces cas-là. Bon, là, il a donné l'exemple d'un cas, vous avez vu, de relations sociales. Hein. Mais même, je vais donner par exemple un autre cas. Un tas de sur les lois du Migré, par exemple. Il y a une halakha qui dit que si on voit qu'un Migré, il est valable que dans certaines conditions. Pas tous les Migrés sont valables. Des fois, si quelqu'un il fait couler de l'eau dans sa baignoire, il se trempe dans sa baignoire, on ne peut pas dire que c'est kasher. Il y a énormément de choses. Bon. Il faut 40 CA, il faut un certain volume d'eau. Il y a une halakha qui nous dit qu'une baleine qui a échoué sur le sable, et un homme il va se tremper dans l'œil de la baleine, c'est-à-dire que l'œil de la baleine il est liquide, il est gélatineux comme ça. C'est une baleine qui est morte. S'il se trempe dans l'œil de la baleine, dans la gélatine de cette baleine-là, kasher. Cette vue-là, elle est kasher. C'est marrant, comme alors, parce que quelque part, c'est pas un cas qui est fréquent.
C'est pas commun.
Si, on va aller... Même celui qui voudrait aller se tremper dans l'œil d'une baleine, bon courage, avant qu'il trouve une baleine et de pouvoir se. Eh bien, c'est malgré tout d'étudier ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yosef Karo, quand il a écrit ce dîne dans le Shulchan Aruch, d'ailleurs il se base sur la Gemara, pourquoi en fait c'est kasher, vous savez pourquoi? Parce que le poisson lui-même il est considéré comme de l'eau. C'est un morceau d'eau, c'est de l'eau. C'est pour ça que son œil il est considéré comme de l'eau. C'est comme si il se baignait dans la mer finalement. Malgré tout, on étudie la volonté et la sagesse divine. Même si c'est un cas qui ne se présente pas et qui ne se présentera jamais. Malgré tout, c'est important d'étudier. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est la volonté. Ce qu'on ne cherche pas à savoir seulement ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il est en train de nous dire aussi. Mais de s'ouvrir à la sagesse divine, à la grandeur de sa sagesse. Car, arrêt, que chez Adam Yodéa, quand un homme y sait, ou ma sigme sirlo psagze, que alacha, aroucha, be mishnah, ou gmara, ou poskim arrêt, ze ma sig, ou vetofes, ou ma kif, be sirlo, et sonor, et chokmato, chez la kadosh morchou, de leid marchavat fissabe, ve lo birtsono, ve chokmato, ki im, be it lapshutam, ba alachot aruchot, lefaneinu vegam sikhlo melubash bahem. En conséquence, il nous dit, celui qui par son intellect, il sait, il comprend cette décision qui est conforme à la loi, qui est tranchée par la Mishnah, par la Gemara, par les décisionnaires, quand il saisit et il perçoit de la sorte, par son esprit, la volonté et la sagesse du Saint béni soit-il, qu'aucune pensée ne peut saisir, en fait, il n'est possible de saisir ou de l'aide marchavat fissabe ve lo birtsono vramato qui im be itlabshutam. Il n'est possible de saisir sa volonté et sa sagesse si ce n'est que lorsque celles-ci s'introduisent dans les lois telles qu'elles furent tranchées pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul moyen de saisir la pensée de Dieu, c'est par les lois, les commandements divins. Alors là-dessus, il faut bien comprendre une chose, c'est que toute la Torah elle a été donnée à Moshe au Sinaï, c'est le livre du Chumash, les cinq livres du Chumash. Mais à côté de ça, il a été donné toute la Torah orale. C'est-à-dire que les sages d'Israël, jusqu'à aujourd'hui même, ils ont la capacité, quand ils dessinent, d'agrandir la Torah orale. C'est-à-dire qu'ils donnent tous les jours des chidushim, des choses nouvelles qui n'ont pas été dites, et ces choses-là font partie de la Torah qui a été donnée par Dieu au Sinaï. Ça veut dire que un sage, il participe à l'élaboration de la Torah orale qui a été donnée à Dieu, à Moshe au Sinaï. Mais il ne faut pas se tromper, la Torah orale correspond à la mitzvah, c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu. C'est véritablement sa volonté qui s'exprime par la bouche des sages. Alors, quand il arrive à saisir, il ne peut saisir cette sagesse, cette volonté de Dieu, il ne peut la saisir que à travers les lois qu'il étudie. L'intellect, il va s'introduire dans ces lois. Il va s'introduire dans quoi? Dans la volonté, dans la sagesse divine. Sur l'intellect. Vizot, il dit ça. Ça, c'est un niveau. Il dit, Zot, Ma'ala, Yetera, Gdola, Venifla. Il dit, c'est là une grande, extraordinaire et considérable supériorité, il nous dit. Les Enkets, Asher, Bemitzvah, Yediat, Atorah. Dans la mitzvah de connaître et comprendre la Torah. Parce que le fait de dire la Torah sans comprendre, c'est aussi une mitzvah. Mais il dit, mais alors de la lire, de la comprendre, c'est ce qu'il y a de plus supérieur. Comprendre. C'est important, Chabad, c'est comprendre la Torah. Chabad, ça signifie laisser les forces de l'intellect. Le rabbi, le Mourazaken, il attend d'un juif qui comprenne, qui se batte, mais qui comprenne les choses. On attend de chaque juif qui comprenne, pas qu'il fasse les choses comme ça parce qu'on leur a donné. Non, tu dois comprendre pourquoi. Tu dois étudier pourquoi. C'est un devoir. Ça fait partie de l'enseignement Chabad.
On estime alors chaque juif. On l'estime apte à étudier la Torah.
Ah oui, chacun selon son niveau. Non, on l'estime, non, mais ce qu'il nous dit, d'accord, on l'estime, mais il nous dit, il a le devoir de comprendre. Ouais. On a le devoir de comprendre. On ne doit pas passer à côté, de, bon, je ne comprends pas pourquoi. Non, tu dois comprendre. Il nous dit ça. C'est important de comprendre. D'ailleurs, le Rabbi Rayatz, il dit que le plus grand plaisir qui existe, c'est celui de comprendre la Torah. Il dit qu'il y a des. C'est quelqu'un, lui, de très très raffiné. C'est-à-dire que lui-même, qui est un artiste, qui est écrivain, il reconnaît la grandeur des plaisirs de l'art, puisqu'il dit que d'écouter un nigoun, par exemple, c'est un plaisir très élevé. C'est un plaisir raffiné. D'apprécier un tableau, ou d'apprécier une œuvre, de reconnaître une œuvre, c'est un plaisir de l'âme qui est raffiné, qui est élevé. Il dit, mais il y a le plaisir le plus élevé d'entre tous, celui qui surpasse tous les plaisirs, c'est celui de comprendre la Torah. À plus forte raison quand on ne comprend pas au départ. Le fait de se battre pour comprendre, il dit que c'est le plus grand plaisir qui existe. Et c'est vrai. C'est vrai parce que. Quand on parle de plaisir, en fait, pourquoi il y a un plaisir? Parce qu'on attrape Dieu dans les bras à ce moment-là. Et que Dieu nous prend dans ses bras. On appelle ça un plaisir, sans trop savoir ce que ça signifie. Mais le fait, il est là. C'est que c'est une étreinte entre Dieu et l'homme à ce moment-là.
C'est unifié à Dieu.
C'est une étreinte. Signifier l'unification de l'esprit de l'homme avec la sagesse de Dieu. C'est une véritable étreinte. Vizot mala, etc. Donc c'est un très haut niveau. Les enkets, asher bemitzvot yediat haTorah, veasagata al kol amitzvot maasiot veafilu al mitzvot atluyot bedibur veafilu al mitzvot talmud Torah shebedibur. C'est même plus supérieur, c'est supérieur à tout, même supérieur, il nous dit, aux mitzvot qui dépendent de l'action, comme celles qui dépendent aussi de la parole, et même celles d'étudier la Torah, par la parole, en parlant. C'est supérieur à tout, le fait de comprendre aussi. Qui a lié des kol à mitzvot shebadibur ou maase, akadosh baruch hu malbish et anefesh ou makifa or Hashem merosho veadragla. Voilà la différence maintenant. Alors là, faites attention parce que c'est un des points les plus subtils de ce chapitre. Grâce au commandement, quand on fait les mitzvot par la parole, comme de dire par exemple des prières et des brachot, prononcer les brachot, ou des mitzvot par l'action, comme le fait de mettre des téphilines, par exemple, il y a seulement un seul niveau. L'homme, il réalise la volonté supérieure de Dieu. Et de toute façon, qu'est-ce qui se passe? La lumière de Dieu, elle entoure son âme, du niveau le plus haut de son âme, jusqu'au niveau le plus bas de son âme. Comme il est écrit ici, Malbiche est un effèche. Elle habille, Dieu habille son âme. Et l'entoure de la tête aux pieds, de sa lumière bénie, infinie. Mais pas le contraire. C'est-à-dire, la Neshama, elle-même, elle ne saisit pas encore à Kadosh Baruch Hu. Voilà la nuance. Quand il dit, encore une fois, quand il parle de Torah sans comprendre, ou bien quand il fait une mitzvah, la lumière de Dieu, elle va envelopper son âme, elle va briller dans son âme. Elle entoure son âme. Mais son âme, elle ne capte pas encore Dieu. Alors que, Bediat à Torah, et quand il étudie la Torah, et il la comprend, Milvat Shehasechem Elubash Mechochmat Hashem, Hormis le fait que l'intellect, à ce moment-là, il est enveloppé par la sagesse divine, elle entoure la sagesse divine, elle entoure l'intellect, il n'est gam chokhmat avaye bekir bo. Il dit, cette sagesse se trouve en l'homme, à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que quand un homme il étudie la Torah, il comprend ce qu'il est en train d'étudier, et il saisit la sagesse de Dieu. Il y a deux niveaux maintenant. Il y a deux niveaux. On a vu que dans la Mishna il n'y en avait qu'un seul. Le fait de faire une mitzvah. Mais dans l'étude de la Torah, en la comprenant, il y en a deux. D'abord, le premier niveau, il comprend, il saisit par son intellect la sagesse de la Torah, selon ses capacités. Comme vous avez dit, chacun il peut saisir selon ses capacités. Ad Kedekar, au point que la Torah, elle se trouve en lui vraiment, elle le pénètre. Vegama sechel shelo, et même son sechel, son intellect, meloubash venit pas metochmat shelavaye. La Torah, elle va saisir son sechel. C'est-à-dire que dans un cas, la lumière de Dieu, elle brille, elle entoure l'âme de l'homme de la tête aux pieds, quand il fait une mitzvah. Mais quand il étudie la Torah, le sechel lui-même, il capte la sagesse divine. Il ressent, il comprend, il saisit le roi, quelque part, entre guillemets, il saisit Dieu. Velefi shebedia tatora, atora melu beshet benefesh adam, vesichlo, umukefet betocham, lachen nikrat beshem lechem umazon anefesh. Il dit, puisque par la connaissance de la Torah s'introduit dans l'esprit de l'homme, et dans son intellect, et son intellect est dominé par la chose qu'il est en train d'étudier, elle est donc appelée le pain, ou la nourriture de l'âme. Voilà ce que... C'est un point important, en fait. C'est un point important ce qu'il dit là, parce qu'il nous dit que par les mitzvot, la lumière divine, elle enveloppe l'âme, elle entoure l'âme. Mais par l'étude de la Torah, et par la compréhension de la Torah, c'est carrément que l'homme il saisit Dieu. Il y a un effet supplémentaire. C'est-à-dire que la Torah pénètre dans l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme il entoure aussi la chose qu'il est en train d'étudier, la Torah. Il y a une fusion. Alors en fait, on peut comprendre ça, l'exemple du pain, parce que le pain... Quand un homme il mange du pain, le pain devient une partie de lui-même. Il fait un avec l'homme. Il devient sa chair. C'est ce qu'il veut dire par l'étude de la Torah. Le fait qu'il étudie la Torah devient une partie de lui-même quand il comprend, quand il arrive à comprendre. Est-ce que vous avez compris la différence entre la mitzvah et l'étude? Dans un cas, vraiment, on arrive à ce que qui commence à aller magashmi, de la même façon que le pain zan et agouf, il nourrit le corps, qui shemachni sobetoro, quand il rentre à l'intérieur du corps, vekirbo mamash, et donc il devient venefar, sham liot dam ou vassar, le pain ça devient de quoi? De la chair et du sang, kifsaro, comme sa chair et son sang ça devient, vazai irhie veitkayem, et grâce à cela il va vivre, il va se maintenir en vie, l'homme. C'est pareil, la Torah, c'est du pain pour l'âme. Car, beyedia ta Torah, ainsi, au moyen de la connaissance de la Torah vers Sagata, et de la compréhension par l'âme de l'homme, benefesh adam, chez l'homme da, qu'il étudie etev, qu'il étudie bien, beyoun, profondément, sirchlo, beyoun, sirchlo, avec vraiment la profondeur de son intellect, au point que au mit achedet elle s'unit la chose avec lui, et Il dit, le fait donc par la connaissance et la compréhension de la Torah, par l'âme de l'homme, qui va étudier convenablement, avec la concentration de son intellect, jusqu'à ce que la Torah soit saisie par son intellect, et unie avec lui, de sorte qu'il ne fasse qu'un. C'est pour ça qu'on a parlé on parle d'union, de faire qu'un avec la chose. C'est ça le point de ce chapitre, c'est de nous dire que par la pensée, la parole et l'action, et surtout par l'étude de la Torah, quand on l'a dit en parlant en plus, eh ben on s'unit à Dieu vraiment. Puisque la sagesse de Dieu, les contenus de la Torah, que Dieu et la Torah c'est une seule chose, et le fait de unir son esprit avec la chose, il y a une fusion qui s'opère comme de la même façon qu'un aliment qui est ingéré par l'homme. De la même façon, la Torah, elle est en quelque sorte ingérée par l'âme de l'homme. Elle le maintient en vie. Elle lui donne une vie, la vie véritable. Alors, au Kumosh et Nidbaer, Vezeo Shekatuv Vetora Techa Vetor Meaï, c'est ce qui est écrit. La Torah se trouve au profond de mes entrailles. Au Kumosh et Nidbaer, Beetzraim, comme il est écrit dans le Beetzraim. Char même dalet, perek gimel, chez les vouchers et chamot, les habits de l'âme, les vêtements de l'âme, began eden, ce sont quoi? C'est quoi les vêtements de l'âme? C'est quoi qui protège l'âme au gan eden? Ce sont les mitzvot que l'homme il a accompli. Elle a mitzvot, et la Torah y amazon. Mais la Torah c'est quoi? C'est plus qu'un vêtement aussi, c'est la nourriture. Ve amazon la neshamot, c'est la nourriture pour l'âme. Chez Askuba Olamazé, qui se sont, pour l'âme et la vitalité de ceux qui se sont occupés de Torah dans ce monde, et qui est accordé par celui qui donne la vie. Lishmo, ceux qui ont étudié la Torah, Lishmo, pour son nom. Ou comment chez Neber Bezoar, comme il est écrit dans le Zohar, par Rachad Vayakel, d'Afresh Yud, page 210, Velishma, Aïnou, Kede, les Kachers, c'est quoi l'étudier la Torah Lishma? C'est pour unir son âme, les Kachers en Afcho, les Hachem, à l'aider à Sagat à Torah, comment? En comprenant la Torah, Ish Kefisirlo, chaque homme selon sa capacité, comme il est expliqué dans le Peri Etzraim. C'est-à-dire que la Torah, c'est une nourriture pour l'âme, et c'est la vitalité de l'âme même, qui est accordée par Dieu, qui se revêt dans sa sagesse et dans sa Torah, qui est perçue par l'âme, justement. Alors, on finit le chapitre par ces mots. « Ve amazon i prinat orknimi » La nourriture... Quand c'est du niveau de orpnimi, c'est-à-dire la lumière qui est intérieure, une lumière pénétrante, vers les vushim, alors que les vêtements sont du niveau de makifim, prilat makifim, vers la chenabru rabetenu zirchonam zivracha, chez Talmud Torah, chez Akul Keneged, kol amitzvot, les fiches amitzvot, en les vushim, les vad, vers la Torah imazon, vers gam les vush, les nefesh amaskenet, chez mitla beshba, beyuna, vers limuda, וכל שכן כשמוציא בפיו, בדיבור, שאבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף, כמו שנבהר בפרי עץ חיים. C'est-à-dire, la nourriture, la nourriture, on a dit, c'est l'or pnimi, c'est une lumière pénétrante, c'est la Torah, alors que les vêtements, comme les mitzvot, sont une lumière qui entoure l'âme. C'est pour cela que disent nos sages que l'étude de la Torah, elle équivaut à l'ensemble des mitzvot. En effet, les mitzvot ne sont que des vêtements, elles entourent l'âme, alors que la Torah est une nourriture, mais aussi un vêtement, elle possède les deux, pour l'âme intellectuelle, de laquelle l'homme se revêt lorsqu'il étudie et se concentre. C'est-à-dire que c'est une nourriture, parce que la Torah, elle va donner la vitalité à l'âme, c'est une vitalité pour l'âme. Mais en même temps, c'est un vêtement parce que grâce à l'étude de la Torah, l'âme s'habille dans ce vêtement. Elle possède donc les deux. C'est pour ça qu'il nous dit ici qu'elle est supérieure à toutes les mitzvot. L'âme s'introduit dans la Torah dès lors que celle-ci devient son vêtement. Puisque l'âme s'introduit dans la Torah. Donc la Torah, c'est le vêtement de l'âme. Combien plus en est-il ainsi lorsqu'il exprime par la bouche, il nous dit. quand il parle avec la bouche en plus, il dit, oralement, il parle de Torah, parce que car le souffle de la parole qui prononce les mots de la Torah, ça devient une lumière qui entoure, comme cela est expliqué dans le Pérès Traïm. C'est encore carrément que le souffle de sa bouche, ça devient une lumière. Une lumière qui entoure. Donc, il nous dit ici, en conclusion de ce chapitre, que l'étude de la Torah par rapport à toutes les mitzvot, elle possède une supériorité. Les mitzvot sont un vêtement pour l'âme. C'est le niveau de la lumière qui entoure, un vêtement. Une lumière qui entoure l'âme. Alors que, en plus de ça, l'étude, c'est une nourriture pour l'âme. Une lumière pénétrante qui pénètre à l'intérieur de l'âme et qui vitalise l'âme. Voilà, c'était un peu des explications donc sur ce chapitre 5 du Tanya. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine.